Bonjour à tous et bienvenue au Booster, le centre d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, qui accueille le premier épisode du podcast, le Booster Studio. Vous transportez plus de 40 000 personnes tous les jours. Votre cœur balance entre la France et la Suisse. Vous êtes presque toujours à l'heure. Mathieu Fleury, bonjour.
Bonjour.
Votre mission, si vous l'acceptez, est de nous en dire plus sur votre parcours, qui vous a amené à être directeur général de la société Lemani Cessa, de partager vos expériences, vos objectifs, vos sources d'inspiration et même carrément votre vision. Alors, mission acceptée ?
Mission acceptée.
Qui vouliez-vous devenir quand vous étiez enfant ?
Je crois que quand j'étais enfant, fondamentalement, je voulais rester enfant, en fait, parce que c'était une période que j'ai beaucoup aimée, fraîche et pleine d'énergie. Et puis, quelque part, mon parcours le montre. Je crois que je suis un gourmand. J'ai faim de vie. Et puis, j'avais plein d'envie, en fait. J'avais pas une voie toute tracée. Et j'avais... Mais l'avocat est venu assez vite, ce métier qui était le mien. Et puis, je pense qu'à l'époque, la différence, c'était qu'on était plus attiré par la gloire que par l'argent. Je suis frappé en entendant mes enfants. Ils parlent beaucoup d'argent, alors que nous, on avait plutôt envie d'être des célébrités.
Si je vous dis Université de Fribourg, Impressum, Fédération romande des consommateurs, Haute École de musique Vaud-Vallée-Fribourg, Lemani Cessa, vous me répondez quoi ?
Je vous réponds un sacré cocktail. Finalement, un fil rouge qui est l'amour des gens, l'amour de la rencontre. Je ne suis pas un loup solitaire, quelqu'un de plutôt de meute. Toujours être avec des causes auxquelles je crois. Il y a une ligne. J'ai envie d'être fier aussi comme père d'enfant, de pouvoir dire me retourner sur mon parcours et dire voilà, j'ai pas été trop nuisible, si possible. Et puis voilà, quelque part c'est. J'ai été avocat de différentes causes. Je n'ai jamais été avocat au barreau, mais j'ai toujours défendu des causes qui m'étaient chères et j'ai eu la chance fondamentalement de ne jamais devoir dire quelque chose avec lequel je n'étais pas d'accord. Et c'est quand même, je dirais, un luxe et un plaisir et j'en suis très heureux.
Les 100 jours de votre prise de fonction ont été dépassés. Vous pouvez tout nous dire. Parlons chiffres. Le réseau du Léman Express, c'est 240 trains qui circulent chaque jour de part et d'autre de la frontière sur plus de 230 km et 45 gares. C'est le plus grand RER transfrontalier d'Europe. Il a été mis en service en décembre 2019, avant la pandémie de Covid, et vous-même, vous avez été nommé directeur général de Lemani Cessa en juin 2021, en pleine pandémie. Alors, cette nomination en plein Covid, c'était plutôt l'épreuve du feu façon Koh-Lanta ou le grand bain en natation synchronisée. Comment l'avez-vous vécu ?
Bon, évidemment comme un défi important, mais si je reprends vos deux images, disons le feu de Koh-Lanta et comme en métallurgie, fondamentalement, le métal devient plus dur, plus fort quand il passe au feu, et c'est l'impression qu'on a. Hein. On est devenu plus compétent et meilleur dans notre offre, avec toutes ces difficultés qui ont été les nôtres. Et puis si on prend l'image de l'eau, hein, du grand bain, je dirais qu'on a été jeté dans l'eau froide, ça c'est sûr. Il reste des tourbillons, il reste des passages difficiles, des rapides, des choses compliquées à passer, mais je dirais qu'on a appris à nager. Et étant volontariste et optimiste de nature, je dirais que le meilleur est à venir.
J'aime beaucoup votre image. Interlocutrice privilégiée des autorités, la société Lemanis est chargée de la coordination, de la planification de l'offre, ainsi que du marketing et de la communication du Léman Express. Lemanis garantit la qualité de l'exploitation, de la production et de l'information à la clientèle. Vaste programme quand même! Quel est votre objectif premier ? L'avez-vous déjà atteint ?
Je dirais que mon objectif est permanent, est éternel, j'aurais tendance à le dire. Il n'a ni début ni fin, c'est penser et faire penser aux clients. On est dans le ferroviaire, on est dans des entreprises extrêmement complexes, très techniques, on doit résoudre beaucoup de problèmes, ce qui fait qu'on a tendance à peut-être trop se regarder nous-mêmes et à oublier la vision de ceux qu'on sert, hein, ces voyageurs, ces clients. Qui doivent être au centre de nos préoccupations. Et je dirais que cette complexité doit rester la nôtre. Et face au public, on doit être dans la simplicité. Et à l'interne, j'ai dit l'optique, la vision qui doit être la nôtre, je l'ai appelé ça la vision ras du quai, c'est-à-dire être vraiment avec les clients sur le quai et se dire, qu'est-ce que j'attends ? Quelle est l'expérience que je souhaite avoir avec ce Léman Express ? Et c'est ça qui doit nous guider au jour le jour.
Mathieu Fleury, vous êtes en charge de promouvoir le Léman Express et, vous l'avez dit, d'accompagner sa montée en puissance. Mais concrètement, accompagner sa montée en puissance, ça veut dire quoi? Quelle est votre botte secrète?
Alors ma botte secrète, elle est très secrète parce que je ne l'ai pas vraiment, mais ce serait beaucoup de trains, encore plus de trains, parce que le succès est là. Je dirais la montée en puissance est déjà là, alors qu'on est en plein Covid. Et je dirais qu'il y a une expression, on dit être victime de son succès. Et pour la plupart des gens, c'est quelque chose de positif parce qu'on entend succès. Mais il y a aussi victime dans le mot, et c'est peut-être un peu le danger de cette montée en puissance, c'est que quelque part, nous soyons dépassés par notre succès. Et alors, on se réjouit, on a un œil qui rit, parce que voilà, on a prouvé que l'offre qu'on a créée correspondait à une demande, qui était latente, qui était cachée, qu'on ignorait. Mais par contre, déjà aujourd'hui, on essaye de réveiller les consciences, de dire il faut maintenant prendre des décisions pour un avenir qui s'annonce vraiment à succès. Et dans le ferroviaire, on a un temps long. Les investissements prennent beaucoup de temps et c'est maintenant qu'il faut réagir. Et nous sensibilisons les pouvoirs politiques. Nous ne pouvons pas malheureusement acheter nos trains nous-mêmes. Mais voilà, nous avons un dialogue permanent avec ce qu'on appelle les autorités organisatrices. Donc, et le canton, et les cantons suisses et la région Aura à côté. Et nous voulons anticiper le succès pour ne pas décevoir fondamentalement notre public, qui est un public très exigeant.
On y vient justement, Lemani Cessa est en charge de l'exploitation du Léman Express. Elle est donc filiale des CFF à 60% et de la SNCF à 40%. Deux cultures d'entreprise différentes. Comment faites-vous pour fédérer autour d'un projet commun?
J'ai dit en prenant mes fonctions que je cherchais à unir le meilleur des deux mondes. Ça reste vrai. Je pense qu'il faut être... il faut tirer parti de ces deux fiertés. Il ne faut pas esquiver nos différences, il faut les aimer. Il faut les apprécier et en rire si possible. Un peu d'autodérision de chaque côté de la frontière ferait du bien. Et je pense que je ne cherche pas la fadeur ou la tiédeur d'une solution mixte, mais quelque part au contraire de ces deux grosses fiertés nationales que sont la SNCF d'un côté et les SFF de l'autre, hein, une culture ferroviaire très très forte. Et j'essaie de faire de cette fierté une fierté commune, qui est celle du Léman Express, de l'Emalis, la société que je dirige.
Les politiques d'aménagement du territoire et de circulation sont très différentes du côté français et du côté suisse. Vous n'avez pas l'impression de devoir traiter avec une divinité à deux têtes?
En tout cas, une divinité, puisqu'on peut adorer cette région. Je crois qu'elle est magnifique, elle a un potentiel incroyable. Et fondamentalement, l'Léman Express est l'expression très concrète d'un destin commun. Quelles que soient les différences qui sont encore aujourd'hui... présente sur ce territoire, à la fin, ces deux territoires et ces deux populations n'en feront qu'une sans se perdre en chemin, en gardant les différences, comme je disais tout à l'heure. Mais quelque part, nous sommes au service d'un projet qui est d'unir ces forces qui sont différentes l'une de l'autre, mais que quelque part, quand je l'ai dit avec un sourire, mais le Léman Express rétrécit le Grand Genève. Quelque part, on le rend plus petit, plus prenable, plus saisissable. Et quelque part, les gens ne se sont pas encore rendus compte à quel point on avait rapproché les différentes villes et communes de cet incroyable coin de pays.
Vous l'avez dit, le Léman Express joue le rôle de colonne vertébrale de la mobilité dans la région transfrontalière genevoise et transforme en profondeur la mobilité de plus d'un million d'habitants. Quelle est votre ambition pour Lemani Cessa en tant qu'acteur de la mobilité?
La colonne vertébrale, c'est une belle image, mais en même temps, une colonne vertébrale, c'est un squelette, c'est un peu triste, c'est un peu, voilà. Moi, j'ai envie de muscles, j'ai envie de chair, j'ai envie de réalité. Quelque part, l'expression qu'on emploie beaucoup, c'est tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je pense que on a fait ce qu'on avait à faire tout seul. Et maintenant, notre avenir, il est intrinsèquement lié avec les autres acteurs du territoire. Deux acteurs, deux catégories d'acteurs différents, ce que j'appelle les générateurs de mobilité, donc tous les milieux du tourisme, du loisir, de la culture, qui a tellement souffert du Covid. Donc là, on n'a pas encore vu à quel point il y avait un potentiel de mobilité, mobilité plaisir, comme je l'appelle. Et fondamentalement, ça, c'est les générateurs de mobilité, il y a les prestateurs de mobilité, et ça, c'est tout ce qu'on appelle la mobilité intégrée. Quelque part, il y a peu de gens qui habitent directement à la gare, donc il faut les faire venir à la gare, offrir une vraie alternative. Et tout ça, c'est cette interconnexion, est-ce qu'on y vient en vélo, est-ce qu'on y vient en trottinette, est-ce qu'on y vient en bus, en tram, etc., etc. Pour qu'on puisse être concurrent avec la voiture, concurrentiel avec la voiture, il faut offrir au client une solution clé en main, si j'ose dire, porte à porte, simple. Et c'est à nous, les acteurs du transport public, de se fédérer pour offrir cette simplicité, cette facilité d'usage à nos clients.
Vous venez de le dire, l'individu veut que son lieu d'habitation soit à 15 minutes de tous les événements qui ponctuent son quotidien. Loisirs, commerce, travail. Comment imaginez-vous la ville de demain, voire le grand Genève de demain ?
Effectivement, le Covid nous a fait réfléchir et on n'a pas encore vu peut-être tout le potentiel de cette réflexion. Et certainement que la mobilité fera l'objet d'une vraie remise en question chez chacun, avec cette notion de plus resserrer autour de soi ses différents besoins, hein, et se rapprocher peut-être de son lieu de travail. Je dirais que ça devrait m'inquiéter, mais en même temps pas, parce qu'on a pu voir, et si vous êtes sur nos lignes, vous vous rendez compte à quel point nos lignes sont cette colonne vertébrale, mais de toute une réalité d'habitat, d'industrie, de vie, fondamentalement. On est une espèce de veine qui amène un sang neuf sur tout un réseau, tout un périmètre. Et je pense que quelque part, on fait partie de... Alors c'est une notion un peu galvaudée, mais du vivre ensemble. Bouger ensemble, ça fait aussi partie de vivre ensemble. Et quelque part, on a rapproché par nos lignes la vie privée, la vie professionnelle, la vie culturelle, etc. Et je pense que ça fait un tout. Et quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a rétréci le Grand Genève.
En parlant de projection, peut-on imaginer que le Léman Express puisse circuler un jour grâce à l'hydrogène, par exemple ?
Les événements tragiques qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine vont certainement avoir une influence sur le prix des carburants. Et donc toute la réflexion énergétique va reprendre une nouvelle fois son importance, elle est déjà au cœur. Je souris un peu jaune en voyant à quel point les fabricants automobiles se présentent comme les inventeurs de la mobilité électrique aujourd'hui, en disant que c'est une nouveauté. Mais la mobilité électrique, nous, les acteurs du ferroviaire, nous la pratiquons, pour ainsi dire, depuis toujours. Et c'est évidemment la nature de l'énergie qui fait la beauté de cette mobilité-là. C'est-à-dire que, notamment en Suisse, nous avons une énergie essentiellement hydraulique. Donc l'hydrogène, oui, c'est des pistes, c'est peut-être plus lointain, mais nous estimons que nous sommes déjà aujourd'hui quand même très loin dans le caractère écologique de notre transport. Donc la technologie que nous employons aujourd'hui est propre. Elle dépend évidemment de la nature de l'énergie que nous employons, mais notre technologie, tout aussi bien que l'hydrogène, est d'ores et déjà, d'un point de vue écologique, up to date.
Avez-vous en tête des initiatives inspirantes en termes de mobilité, d'éco-responsabilité, vous venez d'en parler, ou d'urbanisation ?
Je suis un grand amoureux de l'Italie, et l'Italie, dans l'imagerie collective des villes italiennes, c'était les Vespa qui étaient dans tous les coins, les klaxons, le côté pétaradant comme ça de la mobilité, hein, fondamentalement. Et si vous retournez en Italie, les Italiens ont évidemment ce chic pour inventer la Dolce Vita, et la nouvelle Dolce Vita italienne, c'est la mobilité douce, c'est les belles Italiennes et les beaux Italiens d'ailleurs, en vélo, extrêmement classe, comme ça c'est devenu extrêmement cool de se déplacer avec des moyens de mobilité douce, alors qu'avant la voiture est un statut social. Et on voit les villes italiennes, belles déjà de nature, s'être débarrassées en grande partie d'une mobilité individuelle et polluante, et on le voit, ça rajoute encore à l'attrait de ces villes-là.
Y a-t-il des acteurs suisses ou européens qui vous inspirent ?
Alors, en termes de communication, il y a les transports urbains de Berlin, qui sont absolument géniaux dans la manière dont ils travaillent. Donc, par exemple, ils ont fait chanter tous leurs employés une chanson autour de « Je conduis tout seul » pendant le Covid. Donc, ils ont montré, ils ont fait de la dérision sur leurs transports publics vides. Il fallait quand même le faire. Puis l'autre source d'inspiration plus romantique ou plus, je dirais, inspirante d'un point de vue privé, c'est les trains de nuit. Je trouve ce retour des trains de nuit d'une absolue modernité d'une certaine manière, et ça fait rêver. Pour ceux qui l'ont vécu, arriver au petit matin à Venise, dans la gare de Venise, vous sortez de la gare, vous avez la lagune, c'est un souvenir pour toute une vie.
Je suis d'accord avec vous, nous y sommes déjà. Merci beaucoup Mathieu Fleury pour ce partage d'expérience. Sans plus attendre, les questions flash. Vous êtes prêts ?
Toujours.
Le don de la nature que vous voudriez avoir ?
Si j'avais eu ces qualités-là, j'aurais bien aimé être architecte, parce que je trouve que savoir dessiner des maisons, c'est aussi de laisser une trace très concrète dans la vie des gens. Et quelque part, on n'en est pas si loin avec ces tâches autour de la mobilité et de l'urbanisme. C'est un très beau métier.
le cadeau que vous aimeriez recevoir ?
C'est celui aussi que j'aime faire, c'est les mots, fondamentalement. Je pense que les mots qu'on reçoit de celles et ceux qu'on aime sont les plus beaux cadeaux du monde.
Une personnalité suisse ?
Alors, je dirais Stéphane Eicher, dont je suis fan depuis toujours. Stéphane Eicher, un chanteur suisse-allemand qui arrive à s'imposer en France. Il fallait quand même le faire.
Une personnalité française ?
Alors, je dirais, en termes de personnalité française, la nouvelle génération des humoristes femmes en France, Foresti, Blanche Gardin, etc., qui balancent du bois et qui, je trouve, amènent une nouvelle manière de rire, non pas des autres, mais de soi-même, etc. Je trouve que ça amène un vent très frais dans l'humour francophone.
Le conseil que vous donneriez à un jeune qui se lance ?
Alors, on a la chance de vivre dans une région extrêmement opulente et riche, et je lui dirais, méfie-toi du confort. Je pense qu'il faut prendre des risques, c'est là que la vie réside, c'est là que le plaisir et la surprise sont. Donc vas-y, lance-toi, prends des risques. C'est comme ça que la vie a tout son piment.
Lemanis, en un mot.
Alors je triche un peu sur le « un mot » puisque j'emploie le hashtag que j'aime beaucoup, qui est d'origine de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, c'est « train d'union », le « train d'union », qui exprime parfaitement ce qu'on fait.
Un trait de caractère que vous appréciez ?
La joie de vivre, parce que c'est une forme de savoir-vivre.
Qu'y a-t-il dans votre playlist, Mathieu Fleury ?
Alors, comme je partage mon Spotify avec mes enfants, je dirais que je suis up-to-date. Actuellement, j'ai du Stromae à tous les étages. Je dirais que je conseille la bande-son du film Drunk, qui est, pour prendre l'exemple de où je suis aujourd'hui, un excellent booster pour l'humeur dès le matin.
D'avoir accepté notre invitation au Booster Studio. Au fait, qu'allez-vous faire après cette interview ?
Prendre le Léman Express, bien entendu, pour retourner chez moi.
Nous espérons que vous avez apprécié ce quart d'heure Booster autant que nous. On se retrouve dans un prochain épisode avec notre nouvel invité, Brice Domain, directeur général de Canal+ Suisse. D'ici là, on vous donne rendez-vous au Booster.
À bientôt !